Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue encore à notre culte ce samedi soir. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Berit. Donc, avant de passer à la chanson qui va préparer la parole, j'aimerais juste voir s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, peut-être. Je ne pense pas, je ne vois personne. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être faire un déplacement et qui ne serait pas avec nous le samedi prochain? Nous voulons aussi prier pour vous. Personne? Ok. Dans ce cas, la chorale peut revenir. Avant d'inviter le pasteur, le pasteur va nous faire une annonce. Ok, bah, on va chanter, on peut se lever s'il vous plaît, nous allons chanter un chant et le pasteur viendra.
Nous sommes transformés. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Et lorsque nous nous allons devant toi, exposés à ta présence, à ton esprit, par ta parole, répandant nos cœurs à toi, tu nous touches, tu nous fais du bien et tu nous transformes. Parfois, Seigneur, nous ne nous rendons pas compte de la transformation de ta part qui prend place en nous. Oh, merci notre Dieu. Merci de continuer à nous transformer encore ce soir, alors que nous nous tenons en ta présence. Déjà, nous nous sommes tenus en ta présence depuis nos maisons, depuis que nous avons décidé de nous déplacer pour venir. Nous l'ambition derrière la soif, le désir, la faim de ta présence. Et Seigneur, à travers le chant, nous nous sommes tenus en ta présence. Et maintenant encore, tout en continuant ce programme, nous nous tenons en ta présence. Nous, Seigneur, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est moi, c'est ton église, ensemble. Papa et maman, enfants, jeunes gens, jeunes filles, nous nous tenons en ta présence. Et tu nous accueilles, tu nous fais du bien. Et ce bien s'appelle nous transformer à ton image. Reçois donc toute la gloire, Père Tout-Puissant, pour ce moment et pour la suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, nous prions et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup de vous asseoir en encourageant les amis de la chorale. Bravo Seigneur. Merci de les encourager alors qu'ils prennent place. Merci à Bénédicte, merci à Ruth, merci à Bénit, et merci à Ogi, Caris et à Vanel, l'heureux marié, non encore marié. Ah oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je voudrais très rapidement vous entretenir parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas de nouveau. Et donc là, je voudrais, dans le programme, il y a deux moments d'intervention de ma part. Je voudrais vous entretenir pour le premier moment qui consiste dans l'introduction au baptême. Et donc, dans la semaine, en priant, l'Esprit m'a convaincu de faire cela ici même, en plein culte. Parce que parfois, beaucoup sont baptisés, ou beaucoup ne le sont pas encore, ou beaucoup sont chrétiens. Et j'ai vu des noms des personnes qui se sont enregistrées. Parfois, on écoute l'annonce. Certains ont été encouragés par leurs parents, d'autres par eux-mêmes. Mais si on ne sait pas c'est quoi le baptême, c'est important que parfois l'Église nous parlions de cela. Donc, il y a des enfants qui attendent. Je vais prier pour vous après ce moment parce que parmi vous, vous êtes concernés, vos encadreurs et vous-même, vous êtes aussi concernés. C'est important d'entendre ces choses. Donc, pendant quelques 10 minutes, je voudrais très rapidement vous introduire au baptême. Voilà. Première chose, le baptême est un sacrement. Les églises évangéliques ont deux sacrements. Le sacrement de la Sainte-Cène et le sacrement du baptême. Il y a d'autres églises de tradition non évangélique qui ont plus de deux sacrements. Certaines en ont 6, d'autres en ont 7. On peut en avoir jusqu'à 12. Et donc, nous parlons des sacrements de la Sainte-Cène et du baptême. Et il s'agit du baptême d'eau. Le baptême d'eau. Pourquoi sacrement? Parce que la tradition chrétienne et la théologie définit comme sacrement ce que la parole de Dieu recommande, hein, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a pratiqué, de que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé comme ordre, trois, que les apôtres ont pratiqué depuis l'Église primitive. Donc ça fait des conditions. On trouve ça dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ a pratiqué, c'est-à-dire il s'est fait baptiser pour pratiquer pour le Seigneur Jésus-Christ, ça fait deux options. Un, il s'est fait baptiser lui-même. Deux, il a baptisé. Ok, maintenant ça fait trois maintenant. Dans la parole, le Seigneur Jésus lui-même l'a pratiqué, c'est-à-dire il s'est fait baptiser et il l'a recommandé. Nous sommes à trois conditions et quatre. Les apôtres l'ont pratiqué, se sont baptisés. Cinq, les apôtres ont baptisé. Et quand on dit les apôtres, nous sommes à cinq. Et si on distingue les apôtres de l'église primitive, ça fait six. Et donc, ce sont ces commandements-là qui remplissent tous ces critères que l'on appelle sacrements. Et lorsque vous lisez la parole, les sacrements sont dans le Nouveau Testament et vous ne trouverez que les deux, la Sainte-Cène et le baptême. Comment s'administre le baptême et comment il se pratique? Il est administré par le ministre des dieux de la Bible, Jean-Baptiste, de son surnom Baptiste. Son nom qui est Jean a reçu le surnom de Baptiste à cause de son ministère de pouvoir baptiser. Et il l'a fait en plongeant les gens. Baptême de son étymologie qui évoque l'immersion dans de l'eau coulante. Immerger tout entier dans de l'eau qui coule, l'eau coulante. Et de cette tradition, Jésus-Christ l'a pratiqué, les apôtres, l'église primitive, d'où le baptême avait toujours été administré par des ministres de Dieu ou des serviteurs habilités. Des apôtres, il s'étendra jusque dans l'église primitive par diverses pratiques, comme par exemple Philippe qui n'était qu'un diacre, mais en sa qualité d'évangéliste envoyé en mission par le Saint-Esprit, il s'est retrouvé aux côtés de l'eunuque éthiopien à qui il a partagé l'évangile, qui a répondu par l'acceptance du salut en Jésus-Christ, et chemin faisant, sachant que lorsqu'on écoute l'évangile et qu'on y répond pour dire oui, on s'est converti, on est donc dans l'obligation ou dans la demande de Dieu ou le commandement de Dieu de se faire baptiser. Et voyant l'eau, il sollicita de se faire baptiser. Je viens de croire et voici l'eau et tu es là. Qu'est-ce qui m'empêcherait à être baptisé? Écoutez l'évangile. Croire en cet évangile qui annonce Jésus-Christ et être dans les conditions devant Dieu en qui on a cru pour se faire baptiser. Un cas exceptionnel parce qu'il n'y avait que Dieu, Philippe et les baptisés. Mais il y avait aussi les témoins parce que la Bible s'intéresse pas aux détails de qui accompagnait l'eunuque éthiopien. La Bible s'intéresse au fait de son salut. Mais vous comprendrez qu'il ne pouvait pas voyager seul. Il était accompagné, donc il y avait des témoins. Le texte des Actes, il va descendre de son char et puis il va se faire baptiser. Et donc, le baptême va ainsi se pratiquer dans le temps, à travers l'Église primitive, jusqu'à travers l'histoire de temps, jusqu'à nous, et en se pratiquant, à cause des réalités de l'Église qui s'étend dans le temps et dans l'espace. L'Église se propageant dans le temps et dans l'espace rencontre des contraintes, des réalités qu'on appelle socio-culturelles, des contextes, va recevoir des changements, des pratiques, des contraintes, des réalités dû à la praxis et à la ministration, entre autres, du sacrement de baptême, qui fera, par exemple, qu'en nos jours, il y a ce qu'on appelle le pédobaptême. Pédos, pédo, baptême des enfants. Il y a des gens qui baptisent les enfants. Il y a des gens, là encore, il y a des gens qui les baptisent dès la sortie de la maternité. D'autres les baptisent à 8 jours. D'autres encore à un certain âge. Bébé, nourrisson. D'autres encore, on ne précise pas l'âge. Parce qu'il faut d'abord passer par les autres sacrements. Donc, le baptême aujourd'hui, non seulement va avoir comme la forme du baptême des enfants, mais aussi les conditions de baptême à cause des réalités. Comme par exemple, au lieu de baptiser dans de l'eau coulante, toujours, on baptise aussi dans de l'eau qui est rassemblée, réunie, arrangée, parce que problème d'eau coulante. Problèmes d'eau coulante sont des problèmes de tout genre. Les problèmes d'eau coulante sont des problèmes de tout genre. Je vous amuserai en vous disant que, par exemple, chez moi, lorsque j'ai été, je crois bien, en 2001 ou 2003, rentré en mission, et que je l'ai repartagé, chez moi, on est dans le débat de baptiser, en plus du débat de baptiser les enfants et de baptiser les adultes, on est dans le débat de baptiser dans le baptistère, c'est-à-dire un endroit arrangé par l'Église pour servir seulement du baptême, qu'on appelle cela baptistère. Il y a de ceux qui sont de la doctrine de baptistère, mais il y a de ceux qui sont de la doctrine littérale, scripturaire, les biblicistes. On ne peut baptiser que dans de l'eau coulante. Et en fin 2000, avant que je ne voyage, j'avais connu une histoire malheureuse d'une famille qui avait perdu un enfant unique, leur enfant garçon unique. Il était noyé lors du baptême. Et non seulement lui seul qui était noyé dans la grande rivière de chez moi qui s'appelle le fleuve qui porte le nom de mon pays, non seulement ce garçon unique qui était noyé, excusez-moi de vous dire la vérité sans exagérer, le pasteur aussi, parce que le pasteur le baptisait et l'enfant glisse de ses mains, il trousse les manches, il ne permet pas que l'enfant, il plonge pour suivre et récupérer l'enfant, disparaît tous les deux. Et ce n'est pas un seul exemple. Pas un seul exemple. Il y en a plusieurs. Récemment, j'ai reçu le partage de quelqu'un qui était sceptique au baptême et qui est le frère. Il m'a dit, ils sont frères de la même famille et il m'a partagé son grand frère est pasteur et son grand frère n'aime plus baptiser. Il est contre le courant de baptiser. Il est traumatisé de baptiser dans de l'eau coulante parce que Il a vécu lui-même le cas de noyade. Et ce qui s'était passé, c'est quoi? Je ne vais pas vous effrayer. Je vous introduis au baptême. Il était en train de baptiser et en baptisant, la personne a glissé, l'enfant a glissé. Ça, c'est la personne elle-même qui me partage. Pasteur, l'enfant, la personne qu'il baptisait a glissé et il a plongé. Et en plongeant, il y avait une équipe qui priait pour les cas de baptême. Parce qu'on organise le baptême, il y a les candidats à baptiser, il y a le ministre, le pasteur et son équipe qui baptisent. Et il y a une équipe de témoins avec les assistants du pasteur qui prient pour la circonstance. Alors, le pasteur a vu le garçon échapper et il a plongé. Et quand il a plongé, il voit une sirène dans les eaux qui prend le garçon. Et dès que la sirène le voit, il abandonne le garçon et il le frappe de son truc là. Et donc, jusqu'à présent, il a la marque. Il est sorti, le garçon est sorti vivant, lui aussi est sorti vivant. Il a été griffé. Il est vivant et il sert Dieu. Et pour lui, il dit, s'il faut baptiser dans l'eau coulante, je ne sais pas ce qui va se passer. Lui, il arrange le baptistère, il baptise dans le baptistère. Et je disais que chez moi, quand les gens sont dans ce débat-là, quand je leur ai dit que moi, j'ai baptisé ici en Chine, dans la baignoire. Ce n'est pas une baignoire réservée pour le baptême. C'est là où on se lave. Dans une maison. Ça fait longtemps. Je me souviens très bien. C'était décembre 2000. Décembre 2000. Alors, là, on a baptisé. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails de qui on a baptisé, comment on a baptisé. Et ici, là. En 2003, c'était un dimanche de Pentecôte, nous avons baptisé. Et ça, là, de décembre, ça ne m'a pas trop touché. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, convaincu, comme Pierre l'avait vécu chez Corneille, c'est plutôt l'expérience de 2003, Pentecôte 2003, où je baptise dans notre baignoire et la personne est plongée, préparée au baptême terminé, plongée dans l'eau du baptême, et lorsque je la relève de la baignoire et je pose ma main sur sa tête pour prier, la recommander au Seigneur, elle est baptisée dans le Saint-Esprit, elle commence à parler en langue. Ça, c'est inédit comme expérience. Je dis, waouh! Parfois, nous nous distrayons et nous perdons dans des détails. Et là, Dieu m'a montré. Et j'ai dit aux amis à qui j'ai ça chez moi, si vous débattez sur le baptême de l'eau coulante et tout, que diriez-vous de nous là-bas? Où est-ce que tu vas trouver l'eau coulante pour baptiser? Et quelle eau? Et avec quelle permission? Alors, revenons sur l'introduction au baptême pour dire qu'aujourd'hui, les églises évangéliques, dont nous, l'église francophone de Pékin, partageons la doctrine et les valeurs ou les convictions en matière de baptême, nous baptisons une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ en croyant qu'il est le Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un qui est conscient que je donne ma vie à Jésus-Christ, je vais le suivre, je serai son fils, sa fille, disciple de Jésus-Christ. Je l'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et cette personne-là, nous la baptisons dans de l'eau. Ici, avant que nous venions ici, au 21st, nous avions un baptistère. À Wuhan, quand j'ai baptisé, on prenait un baptistère. Actuellement, le baptistère fait office aussi de commerce. D'ailleurs, comme la Sainte-Seine, je ne sais pas si vous savez, vous prenez de la Sainte-Seine originale que moi, votre pasteur, à cause de mes convictions, j'aime apprêter pour servir. Mais vous ne savez pas qu'il y a de la Sainte-Seine qui est importée depuis Hong Kong ou depuis Malaisie ou depuis les États-Unis, qui vient avec des trucs, le vin ou le sang déjà préparé, le pain déjà préparé, ça arrive en nombre, c'est importé. Il y a des usines qui font ça, il y a des églises qui prennent ça et qui administrent cela. Au sein du BICF, nous avons deux tendances d'église. Il y a de ceux qui ont choisi cette voie. Moi, je suis parmi ceux qui disent non, la Sainte-Seine, il faut la faire. Il faut la prêter, il faut la préparer. Je ne veux pas servir au corps de Christ des trucs fabriqués par l'usine dont je ne connais pas. Le but, c'est l'argent. Il faut avoir beaucoup de foi. Je n'ai pas encore cette foi-là. C'est pourquoi je continue à vous servir la Sainte-Seine que vous consommez ici. Et donc, par rapport au baptême, c'est important de comprendre ce que ça signifie et qui doit être baptisé. Ça ne se sollicite pas par une personne pour l'autre, c'est sollicité par la personne qui est concernée elle-même. Quel est le sens et la signification du baptême? Et ça, c'est très important. C'est là où on va lire deux passages pour terminer. Et je vais dire quelque chose d'important. Le baptême, un, c'est un signe d'obéissance à Dieu. Deux, c'est un témoignage public de la foi. J'ai foi en Dieu, je veux. La foi est personnelle dans le cœur, on ne voit pas. Mais pour que les autres sachent que moi, j'ai la foi en Dieu, dans mon cœur, en Jésus-Christ, je vais rendre ma foi publique. Je pose quel acte public? Le baptême d'eau. Ok? Le baptême est un signe de repentance. Je voudrais changer et me repentir de ma vie hors Dieu et sans Dieu pour m'engager dans la vie de Dieu. Et cela en m'identifiant. Le baptême, c'est l'identification, signification spirituelle du baptême, l'identification aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ, sa passion, jusqu'à la crucifixion. Comme il a souffert, j'accepte moi aussi dans ma vie, je souffrirai. Il était crucifié, il est mort. Je mourrai un jour. Mais il est mort, il n'était pas pourri, enterré, resté dans la corruption. Il est ressuscité. Si je mourrai à cause de Christ qui vit en moi, de même qu'il est ressuscité, moi aussi, je ressusciterai. Il est ressuscité vivant, il vit toujours, il vit en moi. Quand je mourrai et que je ressusciterai avec Christ, en Christ, je vivrai comme lui éternellement. Amen. Cette identification-là spirituelle, c'est ça l'importance du baptême. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, le baptême n'est pas pour des chrétiens mûrs, achevés, arrivés. Si vous êtes déjà chrétien, vous m'écoutez, et que vous n'avez pas été baptisé, vous êtes en retard. C'est pas trop tard. Ah oui, c'est pas trop tard. Rattrapez-vous. Rattrapez-vous, soyez baptisé. Mais en réalité, le baptême, c'est le début de la foi. L'Église a pensé que quand quelqu'un se présente pour être baptisé, il veut dire que maintenant je suis devenu parfait. Non! C'est justement quelqu'un qui comprend que non, ma vie, je l'ai vécue sans Dieu, maintenant je la donne à mon Dieu. Je commence maintenant une nouvelle vie. Et en commençant la nouvelle vie, on pose des actes de la nouvelle vie, entre autres le baptême. Donc le baptême, c'est pour les nouveaux convertis. Le baptême, c'est le début de la foi. Le baptême, c'est le premier pas. Le baptême, c'est que toi qui souffres, tu sais pas ce que c'est être enfant de Dieu, comment ça se passe, est-ce que je veux m'en sortir, je suis encore jeune, je suis encore enfant, pourquoi me baptiser tout le temps, je veux d'abord vivre, mais dans ton cœur, tu sais, non, je pense que j'aime Dieu, je veux aimer Dieu, c'est toi là qui as besoin du baptême, ce n'est pas quelqu'un qui se croit déjà loin avec Dieu, celui-là qui est loin avec Dieu, il est en retard, s'il n'est pas encore baptisé. C'est celui qui cherche Dieu, qui est au début, qui a besoin du baptême. C'est pourquoi, comme c'est un commandement, nous avons le texte de Matthieu chapitre 28. Pour terminer, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, que nous allons lire, et puis Colossiens. Et après cela, je vais prier pour ceux qui se sont fait enregistrer pour se faire baptiser. Pendant ce mois d'avril, nous aurons baptême. Et donc, si vous vous êtes fait enregistrer, ou si vous recevez la conviction de vouloir vous faire baptiser, même si vous n'êtes pas fait enregistrer, à la fin du culte, vous allez me suivre dans la petite salle. Je vais vous entretenir sur la suite comme premier moment de préparation au baptême. Mais lisons d'abord Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, qui est un des textes de l'Évangile qui comprend l'ordre du Seigneur Jésus-Christ évoquant la nécessité ou l'obligation des enfants de Dieu que nous sommes, comme ses disciples, de nous faire baptiser. Ensemble, s'il vous plaît. Lisons. Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on va partout pour faire des disciples par l'évangile. Celui qui accepte, deux, on le baptise. Après le baptême, on l'enseigne. Ok? On l'instruit comment vivre la vie de l'enfant de Dieu. Donc, c'est le début, c'est pas la fin. C'est le commencement. Lisons Colossiens, deuxième texte. Colossiens chapitre 2, verset 12, verset 13, et puis on va reculer pour lire le verset 6. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, enseveli, enterré, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et ce texte-là, si vous continuez, c'est là que commence une proclamation unique de la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais cette proclamation s'ensuit à ceux qui ont reçu l'évangile et qui ont obéi à cet évangile, entre autres en se faisant baptiser. C'est pourquoi, revenons au verset 6 pour voir d'où vient cette exhortation. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voilà, par le baptême, marchez avec lui. Merci Seigneur. Inclinons-nous pour remercier Dieu. Recommandons, je recommande dans cette église, ceux qui ne se sont jamais fait baptiser, je voudrais que Dieu vous parle et que si vous en ressentez les besoins, vous puissiez à la fin me suivre dans la petite salle pour vous faire enregistrer, mais aussi pour commencer la préparation. Ceux qui se sont fait enregistrer déjà et ceux qui, si c'est vos parents qui vous ont dit de vous faire enregistrer et que vous changez d'avis, il ne faut pas venir. Mais si vous êtes convaincus, vous le faites. Et je voudrais vous encourager à ne pas perdre le temps. Donc, c'est important, quand vous comprenez, vous êtes conscient. Maintenant, vous vous sentez concerné, obéissez et que Dieu vous fasse du bien. Je vais aussi prier pour nos enfants, les tout-petits qui, après la prière, vont partir à leur moment de parole, ainsi que les préados qui auront aussi leur moment. Seigneur, merci pour cette courte exhortation introduisant au baptême. Saint-Esprit, convainc et parle à chacun de tes enfants, frères et sœurs, en besoin de baptême. Ceux qui hésitent ou ceux qui avaient des soucis par rapport au baptême, que tu les éclaires et que tu convainques chacun. Et que ce baptême qui est planifié pendant ce mois d'avril puisse accueillir tes enfants, ton fils, ta fille, qui veut obéir à ta parole, qui veut obéir à ton commandement, qui veut rendre public sa foi et son appartenance à toi comme disciple. Merci Seigneur Jésus, merci cher Saint-Esprit, et glorifier Jésus-Christ en convaincant chaque cœur en besoin de baptême. Et merci tendre Père pour la suite de ce moment, alors que nous allons écouter la deuxième partie du message de ce jour sur la transformation du moi. La transformation en profondeur. Nos enfants, déjà les tout petits, vont se retirer avec leur encadreur. Nous te confions la sœur Vanessa qui les entretient, mais aussi les préados qui seront avec notre sœur ambassadrice Joséphine, que nous te confions. Garde-leur et tends ta main et fais-leur du bien. Fais-nous du bien à nous tous tes enfants, alors que nous nous sommes rassemblés devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, nous prions et nous disons Amen. Amen. Encourageons les enfants et nos deux bien-aimés, notre sœur Vanessa qui va s'occuper des tout-petits et notre sœur l'ambassadrice Joséphine qui s'occupe des pré-ados. Les dispositions sont prises et nous autres, nous nous apprêtons pour, je ne sais pas comment est-ce que vous les avez encouragés parce qu'ils sont encore là. Est-ce que vous pouvez encore bouger un peu vos mains pour les encourager pendant qu'ils sont en train de partir? Merci beaucoup, voilà. Et nous enchaînons avec ces enseignements introduisant le baptême sur ce qui nous concerne, la transformation en profondeur de mon moi. Voilà. Et nous avons déjà, parlant de mon moi, nous avons déjà vu, n'oubliez pas, que nous sommes dans le contexte des expressions que nous connaissons comme âme, esprit, cœur, homme intérieur, être intérieur, la chair, avec les bases partant non seulement de la science comme la psychologie, l'anthropologie, mais beaucoup plus de la Bible, des concepts bibliques et de l'étymologie qui en ressort. Et c'est pourquoi, parlant du moi, nous avons dit la fois dernière que c'est l'homme naturel. Dans le moi, quand on dit le moi à partir de maintenant, nous devons savoir que nous sommes en face de deux conceptions. Soit une conception positive, soit une conception négative. La conception du moi qui est négative, c'est ce moi naturel sans Christ. La personne humaine sans Christ. Livrée à lui-même, livrée à Satan, livrée aux démons, livrée aux puissances de ce monde, livrée au monde même et à toutes sortes, cette personne qui est livrée à elle-même, au monde, à Satan, aux puissances de ce monde, aux démons, au système de ce monde, va se retrouver victime de toutes sortes d'atteintes. Et ces atteintes-là, en termes techniques de transformation, nous appelons ça les distorsions ou les torsions. On se trouve tordu, d'où l'exercice que nous avons fait. Je pense que chacun a reçu son enveloppe. Vous avez reçu votre enveloppe jusque-là. Si vous êtes venu aujourd'hui seulement et que ceci est nouveau pour vous, levez la main, on va vous donner ça très rapidement. Si vous écoutez, je parle de l'enveloppe que je montre comme ça. Pour vous, c'est nouveau. Vous levez la main, on vous donne ça. Merci beaucoup au protocole rapidement de remettre les mains levées. Vous baissez la main quand vous êtes servi. Si vous voulez, vous ne savez pas c'est quoi, prenez seulement et écrivez votre nom et regardez dedans et suivez ce que nous disons. Voilà, merci beaucoup. Alors, je disais que ce moi-là se retrouve parce que livré à soi-même, livré au monde, livré au démon, à Satan, on va être victime de toutes sortes d'atteintes et qui vont nous abîmer. Et ce fait d'abîmer, nous appelons ça transformation négative ou plutôt distorsion ou simplement torsion. Et ça fait des déformations. Ça va nous donner ce qu'on appelle le MT. Moi tordu, moi déformé, moi désorienté, moi déprogrammé, moi mal formé. Voilà. Mais il y a aussi le moi qui signifie la chair. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à l'Esprit Saint, contraire à la volonté de Dieu, contraire au plaisir de Dieu, ce qui concerne le domaine des pulsions, des envies, des convoitises, des désirs, du lucre, des impulsions incontrôlées, du goût au pouvoir, au matériel, de l'expression de notre ego que nous tenons à satisfaire sans scrupule. C'est le moi. Il est négatif et il est mauvais parce qu'il nous conduit à des actes très souvent insensés et déraisonnés, parfois sans frein. Et ce moi-là, qui est notre chair du grec sarx, il est toujours incliné vers le mal que vers le bien à cause, nous le verrons, nous l'avons dit la fois dernière, de notre nature corrompue. Notre nature corrompue. Mais nous avons aussi le moi qui désigne l'homme intérieur. L'homme intérieur ici voulant dire l'être humain, la personne humaine née de nouveau, sauvée par la foi en Jésus-Christ, habitée et dirigée par le Saint-Esprit. Ce moi, l'être humain né de nouveau, l'homme intérieur. Quand vous lisez les épîtres, surtout pauliniens, lorsqu'il dit « Soyez fortifiés dans votre homme intérieur », le « homme » là du grec, c'est « anthropos ». Ce n'est pas « gune ». « Gune », c'est la femme. Le masculin en grec, c'est « aner », qui donne le français « André ». Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle André ici. André, c'est, ça signifie « garçon ». Du grec, pour désigner le masculin. Et vous connaissez la science, la gynécologie, qui vient de gune, la femme, la femelle, le féminin. Mais anthropos, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez homme, 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 il s'agit très souvent du masculin et féminin. On ne précise pas que c'est la femme ou l'homme. Donc, dans le texte où on dit, soyez fortifiés dans votre homme intérieur, c'est-à-dire dans votre moi qui est renouvelé, qui est sauvé. C'est ce moi-là qui est celui de la personne née de nouveau, habitée par le Saint-Esprit, qui est opposé. C'est l'antithèse de la chair. C'est l'antithèse de l'homme naturel. Lui, par contre, même si c'est ce moi qui fait que l'enfant de Dieu, qui peut se retrouver par sa faiblesse, ayant commis le mal, il ne va pas avoir la paix. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui a Jésus-Christ, dirigé par le Saint-Esprit, lorsqu'il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, sans que quelqu'un ne l'ait vu, lui-même a la conscience renouvelée par la présence de Dieu, il va se retrouver dans la culpabilité. Jamais il sera en paix. Jamais il sera tranquille pour continuer à voter normalement comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il confessera, jusqu'à ce qu'il va abandonner ce mal. Ça, c'est la marche dans le moi renouvelé qu'on appelle dans la pratique et en termes pratiques et courants de la Bible, la sanctification. Donc, le moi pour lequel nous voulons être, nous parlons de transformation en profondeur du moi, c'est notre être intérieur. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, donc pour vous, il s'agit de votre nature telle que née de vos parents. Vous êtes venu dans ce monde, vous êtes encore cru, naturel. Vous êtes cru, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore préparé mûr, comme un fruit non mûr. Et vous êtes donc la proie et les jouets et le ping-pong du diable et Satan et des démons. Mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il vous renouvelle, il vous transforme, il vous revêt du nouveau moi, du nouveau être intérieur. Alors là, en vous commence le penchant d'une vie qui aspire au plaisir des dieux. Mais nous parlons de la transformation en profondeur de notre moi. Nous avons dit la fois dernière, nous répétons, comment est-ce que notre moi devient-il tordu et comment il s'exprime? Parce que nous sommes en train d'avancer, nous commençons la saison pascale et nous allons vous introduire à où avec cette série nous glissons. Nous avons dit la fois dernière que d'abord, c'est le tas, notre moi tordu, déformé, déprogrammé, mal formé, désorienté, est la conséquence de l'héritage biophysiologique de nos parents. Nous héritons une nature pécheresse. Tous, nous venons au monde héritant ou héritier ou héritière de la nature pécheresse qui nous est traduite, transmise par la loi du sang. Les sangs de nos parents, papa et maman, qui sont nos géniteurs. Et donc, de cette loi, commence alors et expose notre personne à des transformations négatives que nous subissons, lesquelles transformations proviennent de nos propres expériences, des actes que nous posons. Non seulement nous sommes nés pécheurs, parce que nous sommes sortis de papa et maman qui sont pécheurs, depuis la lignée d'Adam et Ève jusqu'à nous, Mais nous-mêmes, en grandissant, nous ne faisons pas le contraire. Nous arrivons à pécher. Parfois, il y a même des enfants qui font pire que les parents. Il y a des enfants qui font plus grave, pire que les parents. Et les parents s'étonnent, mais où est-ce que tu as pris ça? Mais où est-ce que tu as là? Mais d'où vient ceci? Ce n'est même pas les parents, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. Il n'y a même pas un ancêtre dans la lignée de papa et maman. C'est la nature pécheresse héritée. Elle est multiplicative, elle est reproductive. Elle reproduit en toi le mal. Pas nécessairement un mal hérité que tu refais. Ça, on le fait. Mais il y a aussi le mal que toi-même, comme être humain, créé libre, tu vas choisir de faire. Nous n'avons pas besoin de trouver échappatoire et excuse auprès des parents. Nos propres expériences doivent nous rendre responsables. Nous sommes tordus à notre moi, aussi par les informations et les messages que nous recevons des autres, qui nous disent ce qu'eux pensent que nous sommes. Si les gens nous disent que toi, tu sais, tu es... En fait, toi, tu serais venu une fille, hein? Toi, tu serais une fille, au fait, mais tu es un garçon. Regarde, comment un garçon comme toi, comment tu vois pas que tu serais devenu une fille? Et quand tu penses à une parole comme ça, peut-être tes parents attendaient une fille et tu es venu garçon et les parents n'ont pas... Quelqu'un t'a dit, au fait, tu vois, il n'y a que garçon, garçon, garçon. Toi, là, on attendait une fille. Et tu es venu garçon. Quand quelqu'un te dit ça encore, moi, là, au fait, je ne suis pas garçon, mais je suis plutôt fille. Cette mauvaise information que tu reçois des autres, tu l'admets pour vrai. Et tu commences, c'est ça qui fait... Faites des études. La plupart des gens qui sont aujourd'hui dans cette société des lesbiennes, des homos, de tout ce que vous voulez, ce sont des gens qui, au fond, ont un problème profond qu'ils veulent satisfaire, malheureusement, de cette façon-là. Et comme ils se retrouvent nombreux avec des problèmes, ils se retrouvent en société et en communauté de semblables en problème. Ils ont créé leurs mécanismes jusqu'à faire des études, des lois, des principes et devenir comme leur leitmotiv, une façon de se comporter. Et ils ont aujourd'hui des théologiens, il y a des pasteurs formés, docteurs en théologie, PhD, qui est là, qui défend, qui connaît, qui maîtrise l'hébreu, les grecs, pour défendre la cause des homosexuels qui veulent se marier. Il va se tenir avec la Bible et il l'interprète. Et il dit, venez. Et il le présente à Dieu et il le bénit. Il fait de même avec les lesbiennes, ainsi de suite. Même celui qui veut se marier avec son chien. Il prend la dame, il prend monsieur le chien, il le marie. Parce que c'est l'amour. Et il y a des passages bibliques qu'on va interpréter. Dieu merci. Ici, là, ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Que Dieu me prenne vite chez lui. Jamais je ferai ça. Alors, vous voyez, ce sont, il faut faire attention aux messages transformés, tronqués, tordus que nous recevons. C'est pourquoi, depuis nos familles, nous devons faire attention, surtout aux paroles négatives que nous adressons à nos enfants. À nos enfants, depuis leur jeune âge. Nous devons faire attention parce que ça, nous avons le système mental, le système cérébral est fait de fonctions qui font même comment est-ce qu'on stocke les paroles négatives et les paroles positives, on les arrange en nous. Il y a des systèmes de stockage. Nous devons faire attention. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pendant que vous écoutez ces choses, vous avez certainement, vous êtes exercé avec ça chez vous, vous avez reconnu et signé et encadré et coché ici et là des choses par lesquelles vous êtes passé, mais qui ont laissé des marques de torsion, de distorsion ou de déformation. Vous avez besoin d'être reprogrammé, d'être redressé, d'être restauré, d'être guéri. Voilà le but de ce moment. nous sommes tordus aussi par les expériences non solvées, non résolues, non digérées, non correctement réglées par lesquelles nous passons. Ce n'est pas toute expérience négative qui laisse des marques pour toujours. Ce n'est pas toute expérience négative. Ce n'est pas toute parole négative qui te déforme. Mais il y en a qui restent en toi et qui restent, qui demeurent et qui, lorsque ça remonte dans ta conscience, ça t'enlève la joie, ça t'enlève le sommeil, ça t'enlève l'appétit, ça te donne la tristesse, ça te fait pleurer ou ça te rend absent de la réalité. Ou ça t'affecte quand peut-être à ta joie, à ton bonheur, à ton zèle. Parce que tu as pensé à cette parole-là. Et ce sont ces genres de choses qui ont encore un effet nuisible, un effet toxique, un effet mauvais sur toi. Ces expériences-là, ces paroles-là, ces images-là, ces scénarios-là, ces relations peut-être déjà terminées, une relation vécue, mais terminée, mais dont le souvenir est resté et ça t'a abîmé. Jusqu'à présent, tu es peut-être fracturé dans ta personnalité. Tu as une sorte d'entorse. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin. Dieu ne veut pas que tu continues avec ces malformations. Dieu te veut en bonne santé à tous égards.
Amen.
Amen. D'où l'exercice qui se trouve ici. Vous les amis qui venez de recevoir ces enveloppes, faites sortir ce qu'il y a dedans. Vous qui avez reçu ça. Si vous trouvez, vous allez trouver un truc comme ça, qui est long. Pour moi, c'est déjà déformé ici. Alors, si vous trouvez quelque chose, parce qu'il n'y a personne, je ne sais pas, depuis qu'on a commencé, s'il y a quelqu'un qui a son truc là tout droit comme ça, il doit sortir et partir. Pour nous tous là, parce que vous en avez deux. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, essayez de faire votre truc là est comment? Votre personne se trouve comment? Et ouvrez-vous à Jésus-Christ. Pensons-nous tous à comment, dans quel état, dans quelles conditions le Seigneur Jésus-Christ nous a trouvés. Amen. Pour être reconnaissant, pour savoir ce qu'il a fait de nous, où est-ce qu'il nous a pris. Et si le Seigneur vous a trouvé, vous avez fait quelques mois, vous avez fait quelques années avec lui, aujourd'hui, de la façon dont il vous a trouvé, vous avez, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est redressé, qu'est-ce qui est réparé, qu'est-ce qui reste à être réparé, essayez de représenter cela à travers ces petits trucs. Il y aura un moment, souffrez, il y aura un moment où on va arrêter avec ça. Et puis on va vous donner pour garder chez vous.
Merci.
Pour le moment, nous continuons à travailler. C'est important. Vous savez, Paul a écrit ses lettres, je me souviens, de l'une aux Philippiens, et il a dit, je ne voudrais pas que vous ennuyiez du fait que je suis en train de vous dire la même chose. Vous savez, en français, dire la même chose plusieurs fois, ça donne quel verbe? Répéter. Ceux qui étaient pendant un programme spécial qu'on avait appelé au mois de janvier, PPS, nous avons dit que Dieu travaille aussi par répétition. Et Paul va dire, si je vous dis la même chose, c'est-à-dire si je répète ce que je vous ai déjà dit, c'est pour votre bien.
Merci.
Enfant de Dieu, quand tu te mets devant Dieu, quand tu t'exposes sincèrement, hein, je me souviens, je sais qu'il y a des gens parfois qui se fâchent. Pourquoi seulement le même truc, le même sujet? Pourquoi? Ils veulent qu'on passe vite. Dieu n'en a pas encore fini avec toi sur cela.
Amen.
C'est pour ton bien.
Merci.
Vous savez, la Bible dit qu'au ciel, il y a des gens qui seront nus. Sauvé, tu es au ciel, mais non habillé. Waouh. Ok, qui veut aller au ciel nu? Vous voyez? D'abord, qu'est-ce que ça signifie se trouver sauvé au ciel et puis tu es nu? Qu'est-ce que ça signifie? Nous ne savons pas. Mais par curiosité, qui veut? Dit Seigneur, tellement que je ne sais pas c'est quoi. Moi, j'ai choisi de venir au ciel, mais nu. Celui qui a le bon sens parmi nous, personne. Personne. Parce que le normal humain nous dit que la nudité, c'est notre intimité. Amen. On ne l'expose pas, notre nudité physique, biophysiologique. Si vous y prenez soin comme cela, qu'en est-il de la nudité spirituelle? Et dans l'éternité, s'il vous plaît, sans réparation. C'est pourquoi souffrez que Dieu martèle les mêmes choses sur votre tympan,
amen,
sur votre cœur,
pour
ton bien, avant de passer à autre chose. Merci Seigneur. Lisons ici quelques passages. De ces passages que nous lisons, je vais vous introduire à quelque chose de nouveau sur comment peut se trouver l'esprit ou le moi d'une personne. Dans quel état notre esprit peut se trouver? Mais lisons d'abord Marc chapitre 14, versets 33, 34, et puis on lira 38. Marc chapitre 14. Marc 14, verset 33, verset 34 et 38. Ça nous introduit à comment nous en sortir lorsque nous sommes victimes de l'une ou l'autre de ces choses. Avec moi, ensemble, nous pouvons lire, allons-y. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça parle de qui? Jésus, nous sommes en Marc 14, c'est un récit de la passion. Nous sommes la veille de son arrestation, de sa souffrance à l'ultime jusqu'à la croix. Et donc, à Gethsémané, Jésus éprouve non seulement de la frayeur, mais des angoisses. Pas une angoisse, des angoisses. Et l'angoisse, c'est une peur extrême. Une peur qui perdure et qui devient très profonde. Ça te secoue. L'angoisse. Et il n'en éprouve pas une. Des angoisses. Certainement des angoisses de chacun de nous ici. Les angoisses par lesquelles toi et moi nous passerons. Il éprouve cela. Continuons la lecture, verset 34. Et voilà ce qu'il dira. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Voilà l'état intérieur de notre Seigneur. Triste jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas un problème que tu arrives à être secoué au point d'être abattu. Le Seigneur est passé par là. Mais voilà la vérité qui nous intéresse. Le verset 38, il va dire quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que l'angoisse, la frayeur, le trouble, ça peut tenter. Ça met en épreuve. Et tu peux abandonner. Je parlais avec quelqu'un au début de la semaine dernière qui m'a dit, pasteur, merci. Parce que ça m'a réconforté. Depuis que j'ai reçu cette nouvelle, j'ai laissé ma Bible. J'ai dit, à quoi est-ce que ça sert de continuer à prier Dieu si ceci m'arrive et arrive au mien? Vous m'avez réconforté. Et on est en train de travailler. Les angoisses, la frayeur, ça peut te pousser à abandonner Dieu. à pécher. C'est pourquoi Jésus va dire, veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation causée par la frayeur, les angoisses, les problèmes de la vie. Pourquoi? Dernier stick du verset, il dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous voulez bien, vous voyez, tout est en capital. L'esprit là-bas, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est l'esprit humain. Est bien disposé, mais la chair, le moi. Ok? Donc pour nous, enfants de Dieu, ça signifie notre homme intérieur, né de nouveau, habité par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dirigé par Dieu. Cet homme nouveau est bien disposé. Mais notre chair, notre nature humaine reste faible. Besoin de prier. Amen. Et si nous ne prions pas, avec cette illustration, cet exemple, voici quelques états de l'esprit d'une personne, même si vous êtes enfant de Dieu. On peut avoir l'esprit du moi, on peut avoir ce qu'on appelle l'esprit ou le moi ouvert. Esprit ou moi ouvert. Tu as ton esprit ouvert. C'est le genre d'esprit où tout entre, tout sort. Ouvert. Ouvert ici, mettez synonyme de vide. Esprit ouvert, c'est un esprit qui est comme vide, qui peut être occupé par n'importe qui et n'importe quand. Esprit ouvert. Et c'est pas, ça ne concerne pas les païens, même enfants de Dieu. Vous connaissez la parabole que Jésus a donnée de cet homme qui avait été délivré, en qui on a chassé les mauvais esprits. Et l'esprit mauvais est parti se déambuler partout, cherchant où est-ce que je vais entrer. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il dit, mais comment est-ce que je me trouve en train de me balader sans quelque part où habiter? En fait, avant que je sois comme ça, sans être quelque part, j'étais où? Les esprits mauvais, ils réfléchissent aussi. Il y a l'intelligence. Il dit, j'étais où? Ah oui, ok. Puisque je n'ai pas trouvé où aller, je vais rentrer où j'étais pour voir. Et la Bible dit, il rentre pour vérifier d'où il était. Il voit la maison toute balayée et non occupée, vide. N'aie pas, ne sois pas une personne à esprit vide. Il faut que, je voulais dire, il faut que ton esprit soit rempli soit du diable, soit des dieux. Ah oui. Alors tu choisis. Parce qu'il n'y aura pas de neutralité. L'esprit ouvert, le moi ouvert. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'être moi ouvert. C'est ce que Jacques appelle ballottant. Des personnes qui sont comme les. Vous trouvez ça dans Jude. Comme les eaux de la mer qui vont à tout flot de la mer, à tout vent. Esprit lié. Un autre état de notre esprit, de notre moi, c'est le moi lié ou l'esprit lié. Ton esprit n'est pas libre. Esprit lié. Par exemple, si ton monde de sommeil, chaque fois que tu dors, tu fais des cauchemars, des mauvais rêves, ça signifie que ton esprit est lié dans le domaine, dans la dimension du sommeil. Le paramètre de l'esprit qui concerne le sommeil s'appelle le subconscient. Donc si chaque semaine tu as au moins une fois des cauchemars, chaque semaine, ou bien cyclique, et très souvent c'est le même thème, c'est que ton esprit là n'est pas libre. Il est lié par. Il y a l'esprit assiégé. Assiégé, vous pouvez mettre comme étouffé, possédé, obsédé. L'exemple simple, c'est des alcooliques. C'est des gens accros à des passions comme la cigarette, comme la musique, les boîtes de nuit. Les passions sexuelles et autres. Quand le déclic se fait,
il faut seulement satisfaire. Ils sont esprits assiégés, entraînent un comportement similaire à l'animal. L'animal agit par l'intelligence animale qu'on appelle instinct. L'intelligence humaine. L'être humain, c'est aussi un animal. Mais la différence, notre intelligence humaine est réfléchie, est rationnelle, est responsable. Mais l'animal ne calcule pas, ne réfléchit pas. C'est une intelligence qui travaille en instinct. Et lorsque ton esprit est assiégé, tu ne contrôles pas ta volonté. Et tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne peux pas reconnaître. Il y a l'esprit fermé ou protégé. L'esprit fermé ou protégé, c'est l'esprit qui trie des choses. Même dans l'Église, même en Dieu, dans la foi, on trie ce à quoi on s'ouvre. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'il te dit et il te partage des choses, il t'ouvre son cœur, il y a des gens qui sont tels que tu sauras, il parle, tu vois que là, la personne se retient. Pourquoi? Parce que il y a des raisons. Il ferme son esprit, il ferme son cœur. Très souvent, pour des raisons de traumatisme ou de frustration ou de déception. Esprit fermé, c'est un esprit du moins protégé, barricadé. Très souvent, ça traduit des personnes qui sont en crise de sécurité. On ne se sent pas en sécurité et on se protège vis-à-vis des autres. Et il y a l'esprit libre ou libéré. Ça, c'est l'esprit de l'enfant de Dieu qui est régi par le Saint-Esprit, qui est éclairé par Christ, par sa parole. Ainsi, nous allons atterrir ici. Je voudrais annoncer deux choses. Nous lisons des passages et puis nous passons à la prière. La première chose que je vais annoncer pour atterrir ici, c'est que nous parlons du MT, le moi tordu. Moi tordu, la torsion, c'est une malformation. C'est une déformation. C'est une déprogrammation. Ce n'est pas en un jour. C'est rare qu'en une seule fois, tu subisses une torsion. Très souvent, c'est une seule fois d'une quelconque expérience ou parole va s'installer pendant qu'il n'est pas encore résolu et réglé. Il y a des ajouts et des répétitions qui viennent sur ce qui a eu lieu pour te mettre et renforcer la condition des déformations, des malformations et créer des handicaps en toi. Et cela ne vient pas du coup, ça se manifeste très souvent par un développement d'une vision négative de la vie. Vous trouverez quelqu'un qui a un langage toujours négatif ou qui est toujours plaintif ou qui toujours renvoie la faute chez l'autre ou qui est toujours apitoyé comme celui qui a besoin d'attention. Il y a cette vision négative. Il y a aussi la transformation négative de tout. Une vision négative, une transformation négative de tout ce qui se passe à l'extrême. Jusque même à Dieu. Jusque même à la foi en Dieu. On croit en Dieu, mais dès que ça ne marche pas, c'est comme si Dieu n'a jamais rien fait. Là, tu as besoin de restauration.
Ça se manifeste dans l'incapacité à tenir, à vivre les relations. Vivre avec. Vivre les relations. C'est une grâce. Et si vous êtes arrivé à un point où vous vous êtes rétracté par rapport aux relations. Vous savez, en Proverbe, si je ne me trompe pas, on dit que de même que le fer devient aiguisé par le contact ou le frottement avec le fer, nous, l'être humain, on devient aussi aiguisé. On utilise dans d'autres traductions, on utilise aiguisé, dans d'autres, on utilise poli. Vous connaissez l'âge de la pierre polie. Voilà. On devient poli par le frottement avec l'autre. Donc, il n'y a aucune relation, même pas dans le couple. Jamais il y a un couple qui, depuis le mariage jusqu'à ce jour, c'est rose sur rose. D'ailleurs, cette histoire de coups de foudre et de nuits de noces, c'est des trucs de durée. Mais la vie vraiment réelle du couple, elle est faite, comme on le dit bien en langage courant, de haut et de bas. De haut et de bas. Et qui ont tenu la vie de couple dans le mariage, c'est ceux-là qui ont fait la moyenne. Ils prennent le haut, ils prennent le bas, ils remontent le bas, ils rabaissent le haut, et ça se rencontre et la vie continue. Et ils sont toujours ensemble. Ceux qui n'ont pas pris le bas pour prendre le haut et mettre ensemble, incapables, eux seulement, haut. Quand il y a bas, ça reste bas. Bas, finalement, divorce. On se sépare. Aucune relation interpersonnelle n'est faite que de positif. Laissez-moi vous dire le contraire. Aucune relation interpersonnelle n'est que négative. Jamais. C'est normal. Ça doit avoir les hauts et les bas. Les positifs et les négatifs. Et la personne restaurée se réjouit des relations comme un don. Amen. Même si la personne avec qui tu vis est non vivable, rends-la vivable. Parce que toi, tu es vivable. Nous étions morts. Et le Seigneur, par sa mort, nous a communiqué la vie. Afin que là où il y a la mort, toi et moi, nous puissions communiquer la vie. C'est pourquoi, par exemple, vous n'avez pas de raison de fuir un membre de famille ou quelqu'un parce qu'il est sorcier. C'est lui qui doit te fuir. Ah, ça, c'est ma foi. Ça, c'est ma foi. Et je vous la communique. Que le sorcier de ta famille te fuit, qu'il tremble. Qu'il sache que toi, tu es enfant de Dieu. Qu'il sache que ton sang à toi, il n'est pas buvable. Ta chair n'est pas mangeable. Parce que ton sang et ta chair se trouvent être mystiquement transformés par le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Alors si toi, tu crains les sorciers, tu donnes quel message? Ça, c'est peut-être ton esprit est un esprit ouvert ou instable. Ça, c'est quelques trucs. Alors, si maintenant, nous avons vécu des choses dans notre moi qui nous ont abîmés, pourquoi nous prenons tous ces messages? C'est pour nous permettre de jouir de la guérison que nous appelons transformation en profondeur, en d'autres termes, restauration. De même que notre état du moi tordu, déformé, désorienté, déprogrammé. Cet état n'est pas le résultat, la conséquence d'une seule atteinte. De même, notre guérison, notre restauration, notre reprogrammation prend du temps. Et tout ce qui prend du temps évoque ce qu'on appelle un processus. Pourquoi nous parlons de tous ces temps? C'est pour vous engager dans une vision de processus. Pas dans une vision d'instantané. Le processus de ma guérison. le processus de ma restauration, le processus de ma transformation. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 16. N'oubliez pas, jusqu'à 18, 16 à 18, c'est la parole de vie de l'année 2021 qui a donné naissance à ce thème ici. En Jésus-Christ, le voile est ôté. Il nous rend libres. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le Seigneur qui est là, c'est l'Esprit. C'est pourquoi, avec la conversion à Christ, les voiles ôtées, notre esprit libéré, le Seigneur nous libère, le Saint-Esprit nous transforme. Nous avons chanté, nous sommes transformés à ton image, de gloire en gloire. C'est une transformation continue. Ta transformation en profondeur est un processus qui va prendre toute ta vie. Quelqu'un peut dire amen.
Amen.
Mais il s'agit aussi d'une transformation en profondeur d'une situation spécifique qui ne peut pas prendre toute la vie. Il y a les processus besoin de la transformation en profondeur. Toute notre vie chrétienne, nous sommes en transformation. Mais dès que, à travers, par exemple, ce feuillet, j'ai identifié telle ou telle situation. À partir de cette situation-là, je n'étais plus, j'avais perdu ceci, ou j'avais développé tel mal. Je peux guérir de cette atteinte-là dans un temps précis, et puis ça passe. Et la transformation continue. C'est pourquoi ce moment, c'est pour nous pousser à nous exposer au Seigneur. Parce que nous avons vu que l'être humain est compartimenté et complexe. Et nous voulons nous ouvrir au Seigneur pour que son travail restaurateur touche mon âme, touche mon cœur, et que le Seigneur me rachète, qu'il me restaure dans les profondeurs de moi-même. Et ça se passe en étapes. Lisons. Ici, vous allez avoir des étapes. C'est la dernière chose que j'ai dit. Et ces étapes qui sont écrites au point 4, à la fin, les étapes avant le point 4, étapes du processus de transformation en profondeur, nous allons revenir sur ça, pas aujourd'hui, mais plus tard. Parce qu'à partir de je voulais dire dimanche prochain, à partir de samedi prochain, à cause de la saison pascale, nous allons exploiter les facettes de la transformation en profondeur sous forme de R. Et nous allons commencer par transformation en profondeur comme rédemption. La rédemption jusqu'à Pâques. Et plus tard, nous reviendrons sur le processus de transformation en profondeur dont vous voyez les étapes ici. C'est une introduction. Recevez cela. Je ne sais pas si la technique peut afficher. Nous avons étape du processus de transformation en profondeur. Nous allons lire rapidement les passages qui sont là, parce que là, nous allons prier et nous exercer. Voilà. Nous avons les étapes du processus de transformation en profondeur. Ces étapes-là, si vous avez un besoin, donc notez que notre transformation en profondeur est c'est un processus. Mais si nous avons la transformation en profondeur comme processus se rapportant à un besoin spécifique, Dieu s'attaque et Dieu veut que nous l'invitions à intervenir dans notre vie par rapport à ce besoin spécifique. Sans confusion. Il y a une transformation continue, continuelle toute la vie. Mais il y a un besoin de transformation spécifique par rapport à ce que je reconnais comme étant mon besoin. Là, j'invite le Seigneur. Je lui expose ses besoins et il me transforme. 1. 2. Toute transformation de la personne, nous voyons que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, si vous me voyez transformé ici, ok? Et je viens, j'entre, je ne suis pas là-bas. Et on vous dit, maintenant nous accueillons le pasteur pour la parole. Et je viens ici, j'avance, vous me voyez, je suis allé en taille jusque là-bas. Et j'ai grossi comme ça.
Je me demande qui parmi vous va rester pour dire, oh Seigneur, tu as transformé notre pasteur. Il a grandi, comme il a grandi, comme il a grossi. Qui parmi vous, hein, mes enfants, hein, mes enfants, et les papas, les mamans, est-ce que papa ou là? Tu seras là-bas sur la chaise là. Même pas, hein? Tu vas vite prendre ma soeur Angèle et sortir du nom, ça ne va pas. La transformation que nous recevons de Dieu n'est pas physique d'abord. Elle se fait à notre être intérieur. Notre moi, elle est spirituelle. Amen.
Amen.
C'est pourquoi nous parlons de la transformation en profondeur du moi. Et nous avons expliqué cela. Et à part cette transformation en profondeur du moi ou de notre esprit, il y a la transformation qu'on appelle guérison intérieure. Nous avons parlé de ça, nous y reviendrons. Il y a une autre transformation qu'on appelle aussi brisement. Nous parlerons de ça aussi. Ok? Alors aujourd'hui, nous avons parlé, depuis cette série, nous avons parlé de la transformation en profondeur de mon moi, qui se rapporte à l'esprit, à tout ce qui est dans mon cœur. Mes émotions, mes sentiments, mes aspirations, ma volonté, mes désirs, mes pulsions, tout ce que je ressens à l'intérieur, dans mon cœur, mes pensées, l'intelligence, tout ça, je voudrais exposer ça au Seigneur pour que je ne sois pas un esprit ouvert, que je ne sois pas un esprit assiégé, que je ne sois pas un esprit fermé. Mais que je sois davantage un esprit malléable, libéré et libre dans les mains de mon Dieu. Ah, c'est cet esprit-là qui fera que quand tu te sens dans la présence de ton Dieu, tu ne vas pas regarder quelqu'un autour de toi. S'il faut crier, tu vas crier. S'il faut pleurer, tu vas pleurer. S'il faut sauter pour ton Dieu, tu vas sauter. C'est cela que Dieu veut de vous et moi. Et ça, c'est le résultat d'un processus. Mais dans la pratique, voici quelques étapes. Reconnaître son état de moi tordu et son besoin de restauration, de guérison intérieure. En finir avec le péché. Chaque fois que tu veux que Dieu te touche, sois humble. S'il y a un mal, règle ça comme il le faut avec Dieu. Si tu t'en sors pas, cherche solution. Dieu n'est pas le Dieu du mal. Il t'aime. Mais il n'aime pas le péché. Tu aimes Dieu, tu quittes les fuis le péché. Étape 3, briser ou détruire les compromis, les accords, les consentements. Il y a des choses qui te font comporter comme ça, simplement parce que tu as admis. Parce que tu as admis. Vous savez, je vais vous amuser. J'ai eu dans ma vie à souffrir de l'estomac, des maux gastriques. Et j'avais développé des tics, comme quoi je devais faire ça. Chaque fois, chaque minute, j'étais en train de tordre mon cou, de faire des trucs, de faire, et ça fait boum, 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 comme ça là. J'étais converti. Et quand les gens me disaient, qu'est-ce que j'ai dit? Non, je souffrais de l'estomac. Entre-temps, je prie pour les gens qui sont guéris. Je prêche. J'étais jeune, je n'étais pas encore en théologie. Autour de 20 ans. Jusqu'à ce qu'un de mes enfants spirituels, aujourd'hui pasteur, on marchait. Il me dit, pasteur, pourquoi vous faites ça? Il me dit, mon frère, je n'étais pas pasteur. J'ai dit, parce que voilà, voilà, voilà. Il dit, c'est parce que dans ta tête, tu as mis que pour être soulagé de ton maux d'estomac, tu dois faire tout ça. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Cette parole-là, j'ai saisi ça comme une parole vraiment. On marchait. Ces jours-là, j'ai arrêté. En vous parlant, je me vois même en train de marcher avec lui. Je me vois, je l'entends même. Depuis là, c'est fini. Je ne fais plus tout ça. Et je ne sais même pas quand est-ce que cette histoire d'estomac a disparu. Tu as eu des choses que tu as, auxquelles tu as consenti. Tu as donné accord. Tu as donné à cela un pouvoir. Et ça régit soit ton sommeil, soit ton appétit, soit ton goût, soit ton comportement, soit tes relations, soit ta joie. Quand ça se passe comme ça, c'est la joie. Quand ça ne se passe pas comme ça, tu es frustré. Tu as consenti. Il faut briser cela pour que ton esprit soit libéré. Et nous avons à inviter Jésus-Christ pour faire ce travail. Amen. Ce n'est pas ton travail, c'est Jésus qui le fera. Il va faire, il viendra avec sa lumière qui va briller en toi, avec sa vérité, parce que lui-même est la vérité. Il montrera en ton intérieur que ce qu'on t'a dit là, ce à quoi tu es accroché jusqu'à présent, c'est faux. C'est mauvais. Moi, je te dis ceci. On t'a dit que tu es inutile. Moi, je te dis, toi là, tu es précieuse. Tu es précieux pour moi. Ça me fait penser à ma femme qui vous a dit qu'on lui disait regarde son derrière. Chez moi, on appelle ça dikoshi. On lui dit toi là, dikoshi comme ça, qui va te marier? Voilà, je l'ai marié. Sans dikoshi. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais même pas où est ce dikoshi là. Quand il me parlait de ça, j'ai dit je ne vois même pas le dikoshi là. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. C'est une femme remplie de jalousie parce qu'elle va voir que son mari va attacher son cœur à sa fille et pas à ses propres enfants. Comme marâtre, comment je dois faire pour détruire cet enfant? Elle libère des paroles empoisonnées, toxiques. Et le Seigneur dit jamais, sans effet, parce que je suis le Dieu des chanteurs. Jésus-Christ vient avec la vérité. C'est parce que Jésus a éclairé sa vie de sa lumière et de sa vérité qu'elle est celle que vous connaissez et qu'on a surnommée la mère des nations. Il y a même un diplomate ici qui a dit « mère des nations, ça ne suffit pas. Ajoutez la mère du monde. » Voilà ce que Dieu veut faire. Si Dieu a fait ça avec des personnes que nous citons, il est juste, il ne fait point exception de personne. Il le fera pour toi, ma fille. Il le fera pour toi, mon frère. S'il ne l'a pas encore fait, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Ah oui. Très souvent, ça prend du temps, non pas du côté de Dieu. C'est de notre côté. Merci Seigneur. Ouvrir son esprit, son moi, à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prends ta main droite. Dis seulement Jésus-Christ m'aime. Dieu m'aime. Merci Seigneur. Abba Père. Mon Dieu. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Comme jamais personne ne m'a aimé. Amen. Puisque Dieu t'aime, il ne peut te vouloir que du bien. Ouvre ton esprit, ton moi, à la volonté de Dieu. Ces choses, nous pouvons lire des passages parce que nous allons prier. Vous avez vu des passages là-bas. Vous savez, ces pupitres, vous pouvez l'avoir à la technique. Vous pouvez aussi demander l'audio. Nous allons maintenant lire des passages. Donc, ces étapes, nous nous arrêtons ici pour ce travail sur les moi. Nous reviendrons sur ça plus tard. Et même sur la guérison intérieure et le brisement et beaucoup d'autres choses. Parce que nous voulons être transformés pour devenir des instruments de transformation. Alors, lisons. D'abord, le psaume 51, verset 12. Ces passages qui sont là. Lisons ensemble. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé qui n'a pas de joie, qui est malheureux? Tu peux faire cette prière-là. Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils. Voilà ce par quoi je passe qui m'enlève la joie. Toi, mon Dieu qui m'as sauvé, rends-moi la joie de ton salut. et que l'esprit de bonne volonté vienne me soutenir. Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ça, c'est le moi naturel. Dépouillé. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Voilà la connaissance. Quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Quelqu'un a appris des choses autour de moi? La connaissance. La connaissance là permet quoi? Que l'homme nouveau en toi puisse se renouveler. Renouveler. Méfie-toi de la connaissance qui te rend esclave, qui t'abrutit. Ouvre-toi à la connaissance qui t'a franchi, qui te fait épanouir. Même si ça te fait mal. Oh, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, versets 22 et 23. Allons-y. À vous de prier, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ok? Enfant de Dieu, très important, l'esprit de l'intelligence, renouveler l'intelligence, renouveler. Il y a des choses pour que ça te parvienne, même de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, mais l'intelligence. Ton intelligence doit subir parfois un déclic. Et ça s'ouvre comme ça, c'est fini. Ouvre ton intelligence. Verset suivant, c'est bon, c'est tout. 22 et 23. Être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Merci notre Dieu. Cela nous permet de faire des paroles de déclaration. Nous allons nous lever pour proclamer avec ce passage. Nous allons faire des proclamations suivant ce passage. Et notre prière d'aujourd'hui, c'est briser tout compromis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ton esprit? Est-ce que ton esprit, tu sens que quelque part ton moi, ta volonté, tout ce qui fait ta personne intérieure se trouve comme pas sous ton contrôle, comme pas sous le contrôle de Dieu? Est-ce qu'il y a des consentements? Est-ce qu'il y a des choses que tu as accordées, que tu as acceptées et qui se sont établies et qui désormais régissent ta façon? Oh, merci Seigneur. Est-ce que c'est au niveau de ton âme, de tes sentiments, de ton cœur qu'il faut ouvrir ta personne à Christ, à sa présence, à sa lumière? Est-ce qu'il y a-t-il un mensonge qui est devenu vérité en toi? Oh, vous savez, un billet de $100 faux, il peut circuler. Il est faux, il passe, il circule, il circule, il circule. Mais jamais il n'est devenu vrai dollar. Il est toujours 100. Les mensonges là que tu as admis, qui est devenu vérité, restent foncièrement mensonges. Condamne-les pour recevoir la vérité de Christ. Merci Jésus. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Nos proclamations et déclarations sont autour des paroles que nous lisons. Et nous allons briser, détruire tout ce qui est mauvais héritage. Peut-être que tu as des manières que tu retrouves dans ta famille, du côté soit de ta mère, du côté soit de ton père, ou des membres de ta famille. Il faut détruire cela, parce que tu n'es pas né du sang seulement. Tu es aussi né de Dieu. Tu es maintenant né de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 48 à 50. Allons-y. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le terrestre, tu ressembles à tes parents. Le phénotype, le génotype biophysiologique de tes parents. Le céleste, tu es né de Dieu. Maintenant, tu dois ressembler à Dieu. Amen. Ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Arrêtons-nous là-bas. Vous voyez? La chair et le sang, nous avons reçu des parents. Ça ne nous rend pas propre au royaume de Dieu. Passons à un autre texte. Merci Jésus. Jean 1, 12 et 13. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Parce qu'on a terminé la lecture, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Parce que Jésus l'a dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment on est devenu? Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ni de la volonté de l'homme. Ce verset a sauvé une fille qui était possédée par l'esprit des mères. Et l'esprit des mères l'avait tellement possédée. Elle pouvait sentir. Elle voyait sa vie toujours à l'eau. Elle sentait un serpent sur qu'il est en elle. Elle m'a partagé. J'ai lu en elle cette possession. Et je lui ai dit, la fois prochaine quand je reviens en mission ici, je vais prier pour ta délivrance. Mais l'esprit me dit que tout part de ton origine. Demande à tes parents comment tu es né, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu naisses. Écoutez-moi, la fille appelle sa maman, elle demande, la maman dit, écoute, ma fille, je suis désolé de te dire que ton papa et moi, on n'a pas programmé ni de se marier, ni de faire un enfant. On s'est rencontrés, on voulait s'amuser. On s'est amusé. Et lorsque je me suis trouvé conçu de toi et que je lui ai dit, il m'a dit, oublie, je te fais cadeau. Si tu veux, prends cadeau. Je ne suis pas dedans. Oh. Tu sais comment ça s'est passé. Et la fille dit, mais dis-moi quand même, cet homme-là, ce papa, il est qui et il est où? Et la maman de dire, il est en France, mais depuis là, je n'ai aucune trace. Seulement, je sais qu'il est en France. Aucune trace. Oh Seigneur. Et j'ai reçu cette révélation. Tu n'es pas né du sang, ni de la chair. Parce que la chair et le sang peuvent te nier. Mais né de la volonté de Dieu. Parce que pour elle, il n'y avait pas la volonté de l'homme. Certains parmi nous, nous sommes nés de la volonté de papa et maman. Amen. Mais cette fille-là, il n'y avait pas la volonté de papa et maman. Dieu merci, elle peut être rattrapée par la volonté de Dieu. Elle a été délivrée, sauvée, restaurée. Merci Seigneur parce que tu es bon. Disons merci au Seigneur, nous qui sommes nés de Dieu. Disons merci au Seigneur, nous sommes en train de prier. C'est ça notre proclamation. Avant de continuer la lecture, nous allons, nous prions. Priez le Seigneur maintenant. Vous êtes nés des parents. Peut-être vos parents vous ont dit comment ils ont demandé pour que vous naissiez. Et ils sont reconnaissants envers Dieu pour vous. Dites merci à Dieu d'être né comme ça. D'être venu dans ce monde comme ça. Des parents qui ont voulu de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Mais encore, en plus des parents qui ont voulu de vous, il y a Dieu qui vous fait naître de lui en Jésus-Christ. La volonté de Dieu s'est posée sur toi alors que tu étais encore masse infime et informe. Dieu t'a regardé et il a dit, toi, vis, tu vivras. Merci Seigneur, merci Jésus pour la vie de ta fille, pour la vie de ton fils. Alléluia. Peut-être toi, fois ton père t'a refusé, rejeté, abandonné. Comme cet enfant dont il est dit, sois les cadeaux. Mais ton Dieu, il est pour toi un père. Et tu lui es précieuse ou précieux. Dis merci au Seigneur qui t'a donné en Jésus-Christ d'être né de lui. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma sœur. Merci Seigneur pour mon frère. Merci notre Dieu. En Christ, de nous donner de naître de ta part. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nourrissons notre âme encore de cette parole de lamentation. Lamentation chapitre 3 maintenant. Versets 21 à 25. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez votre intelligence, ouvrez-vous à ce que vous lisez comme des paroles de Dieu même qui s'adresse à vous. Lamentation 3, nous allons de versets 21 à 25. Cet homme, Jérémie, de qui sortent ces paroles, titré Lamentation, est passé par des temps très difficiles. Mais Jérémie est parmi les fidèles et très puissants prophètes de la Bible. Voilà ce qu'il nous lègue, à vous et moi. Allons-y ensemble. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Faites avec moi les gestes quand vous lisez. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? Allons-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Pour qui?
Pour moi.
Pour moi. Continuons la lecture. Merci Jésus. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Ne sois pas indifférent ou indifférente au Seigneur. Cherche-le. Il a de la bonté pour toi. Merci notre Dieu pour tes bontés pour moi. Disons merci au Seigneur. Quel est le bien que tu ressens que Dieu a fait pour toi? Quelle bonté tu as reçue aujourd'hui en étant ici en sa présence? Dis merci au Seigneur. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens la confiance? Tu ressens l'espérance renaître en toi? Est-ce que tu ressens la joie revenir à toi? Peut-être sur ce feuillet-là, tu as encadré des choses. Tu as encerclé des choses qui t'ont traumatisé, qui t'ont frustré, qui t'ont détruit. Pendant ce moment que nous sommes en train de prier, nous voulons détruire toutes ces choses-là. Parce qu'auprès de mon Seigneur, il y a de l'espérance. Je ne voudrais pas avoir à nourrir mon âme de ce qui m'apporte la toxicité, l'empoisonnement, qui m'enlève la joie. Mais je vais nourrir mon âme, mon esprit, des bontés de l'Éternel, de ce qui me donne l'espérance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais que pour tous ceux qui sont partis avec ça, vous avez pris ce papier, vous êtes partis avec. Si vous avez fait du travail, vous avez encadré les choses, prenez-le maintenant. Maintenant, prenez votre feuille de papier là, si vous l'avez amené avec vous, et que vous y avez travaillé, et vous savez ce que vous avez fait. Prenez avec vous. Très rapidement, jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil pour regarder ce que vous avez encerclé, ce que vous avez coché. Si vous avez fait ça, juste un coup d'œil pour savoir que ça prend fin, c'est la restauration, la guérison, la transformation en profondeur, toutes ces choses-là. Si vous avez terminé de jeter un coup d'œil, déchirez-le maintenant. Parce que nous détruisons tout cela. Nous ne voulons pas repasser des choses comme cela. Nous voulons repasser les paroles qui nous donnent l'espérance. Nous voulons repasser les bontés de Dieu. Déchirez en miettes et en morceaux et vous gardez cela. Vous allez venir déposer ça ici. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, vous vous ouvrez à son travail. Oh, merci Seigneur. Pensez à ce que vous avez déchiré, qui est jeté à la poubelle. Et nous continuons à faire cet exercice. Merci notre Dieu. Alors que vous avez cela, nous lisons Romains chapitre 12. Nous sommes dans le processus de transformation. Nous nous nourrissons des paroles de l'Éternel. Romains 12, versets 1 et 2. Et nous allons terminer avec le texte de Colossiens. Romains 12, versets 1 et 2. Allons-y ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le verset 2, qui est le verset de transformation en profondeur. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waouh! Ce que Dieu veut pour toi, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Mais pour que tu le saisisses, il faut que tu sois transformé par une intelligence renouvelée. Merci Seigneur. Lisons enfin Colossiens 1, 9 à 12. Nous terminons. Colossiens 1, 9 à 12. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, pas dans les ténèbres, dans la lumière. Rendez grâce au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut acclamer son Dieu? Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Quelqu'un peut rendre grâce au Seigneur pour l'héritage que tu as avec les saints dans la lumière. Tu n'as pas besoin d'aller dans une maison. Tu n'as pas besoin d'aller dans une loge, dans un club pour te dire viens, on va te donner la lumière. En Dieu, en Jésus-Christ, tu reçois l'héritage avec les saints dans la lumière de la présence de Dieu. Oh merci Seigneur, élevons nos mains. Élevons nos mains pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur, ma prière est que tu touches l'intelligence de ton fils, de ta fille. Que tu touches l'intelligence spirituelle, que tu ouvres, Saint-Esprit, que tu fasses le déclic dans un cœur, dans une personne, dans son intérieur, dans son intimité. Pour que Seigneur, nous soyons excités à nous offrir et à nous ouvrir à ton travail transformateur. Parce que Seigneur, tu n'as fait que commencer. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir commencé. Et tu feras des merveilles, des très grandes choses. Oh, merci mon Dieu. Merci parce que tu as détruit tout ce qui empoisonnait la vie de ta fille, la vie de ton fils. Seigneur, tu détruis cela et tu commences ton travail transformateur de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de bénir ton peuple. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Et donc, tout de suite là, quand nous allons venir donner nos offrandes, nous allons amener ces déchets-là. Vous savez, pendant que nous prions, c'est que l'Esprit de Dieu me dit, je ne sais pas, ça concerne tout le monde ou quelqu'un,
Je veux que la chorale vienne pour nous accompagner à chanter et à offrir au Seigneur. L'Esprit me dit, le Seigneur dit que je ne fais que commencer. Il me dit ça. Je ne fais que commencer. Il a commencé. Il n'a fait que commencer. Il va faire. Il n'a pas encore terminé de faire son travail. Laisse Dieu achever ce qu'il a commencé en toi. Ah, je m'adresse à quelqu'un. Laisse ton Dieu achever ce qu'il a commencé de faire en toi. Pour ton bien. Ça te fera du bien. Nous offrons au Seigneur notre argent en dîme, en offrande. Je vous rappelle que quand vous offrez au Seigneur, mettez tout ça dedans, dans les paniers là, avec votre argent. On va récupérer l'argent et on va prendre ces trucs là pour me les remettre. Et je vais les jeter après avoir prié pour cela. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons l'argent que tes enfants donnent en dîme, en offrande et en toutes sortes de dons. Nous te bénissons et nous t'adorons pour ce temps passé en ta présence. Sois glorifié. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ. Nous prions. Amen.
Yeah.
Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là pour toucher, pour restaurer, pour guérir. Et nous levons nos mains, nos deux mains levées, expression de nos cœurs, levées vers le Seigneur, afin que par sa parole, il éclaire nos cœurs, et que par la puissance de son Esprit qui agit en nous, alors que nous nous sommes tenus en sa présence, il dissipe toute ténèbre et nous fasse vivre en une intelligence renouvelée, que lui-même transforme et renouvelle continuellement. Oui, comme le dit le texte, 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Le Seigneur Dieu qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui accomplira toutes ces choses qui se trouvent être les aspirations et les besoins, les soupirs de votre être intérieur, de votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alors que nous entrons dans ce férié des Chinois qui est dédié aux défunts, aux morts, nous qui sommes du Dieu vivant, nous voulons célébrer sa vie en Jésus-Christ et prendre ce temps pour nous reposer et nous restaurer de dur labeur, de travail et de toute autre chose. Que le Seigneur vous accorde sa grâce par sa présence, à travers le moment passé en sa présence, qu'il continue à vous visiter, à vous faire du bien. Merci notre Seigneur. Nous te prions et t'invoquons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, pendant que nous quittons ces lieux, je voudrais ici, d'abord, annoncer, parce que nous allons terminer, on a prié. Nous voulons accueillir notre frère Théodore. L'adjudant chef Théodore et sa femme qui avait perdu sa maman. Ma soeur, vous pouvez vous lever. Voilà, donc depuis le deuil, elle est revenue à l'église. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. Nous avons eu à les assister, à les encourager et ils sont là. Et nous bénissons le Seigneur pour tout. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Et en même temps, nous avons aussi une autre famille qui est endeuillée, notre frère Cyprien. Lui, il n'est pas là parce qu'il doit être empêché, mais je vois sa femme et je vois aussi les enfants qui sont là. Ma sœur, vous pouvez vous lever avec les enfants. Voilà notre sœur. Vous pouvez lever, secouer la main. Voilà. C'est son mari qui a perdu son grand frère depuis l'Afrique en Angola. Et donc, nous les aurons encore le samedi prochain. Je crois bien que ça sera le dernier samedi parmi nous. Ils nous diront au revoir. Et pour l'instant, je voudrais dire une prière à la famille avant que nous quittions, alors que je vais vous libérer avec quelques annonces. Seigneur, que tu soutiennes la famille de notre frère Cyprien Kapoko depuis lui-même ici à Chine, sa femme et les enfants, jusqu'à Angola où la veuve et les enfants sont restés, et à Kinshasa et partout ailleurs où les membres des familles sont endeuillés par la disparition de ses frères, de ses parents, de ses tontons. Console cette famille et que tu fortifies ton fils, notre frère Cyprien, ainsi que sa femme. Nous te le confions au nom puissant de ton fils Jésus. Amen.
Amen.
Très rapidement, laissez-moi vous dire premièrement que nous avons risqué de manquer cette salle parce qu'il y avait une activité, nous avons négocié. Donc tout de suite là, à 19h pile, il y a, je pense, des gens qui arrivent, il y a des gens qui vont utiliser cette salle, 19h juste. Donc nous avons à nous saluer, et ceux qui sont concernés par le baptême vont me suivre dans l'autre salle pour 5 minutes. Ça c'est la première annonce. La deuxième, demain sur Zoom, les jeunes, vous savez que nous allons nous retrouver autour de les jeunes et la vie sentimentale. On parle de ça demain sur Zoom pour les jeunes. Et donc, voilà. Alors, pour la prière, pendant que je suis en train d'annoncer ceci, n'oubliez pas votre enveloppe, les enveloppes là, Quand vous sortez, vous donnez ça au protocole, ne partez pas avec parce qu'on n'a pas fini le travail. Il n'y a pas prié ce lundi. Lundi, pas prié parce que c'est férié, reposez-vous. Donc nous allons nous retrouver à partir du lundi 11 et nous aurons écouté.